connaître l'impact dans votre vie. Dans votre vie. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Dan Pigra.
Alors, on est toujours avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel, pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs. De ce que je comprends, docteur Chamberlain, c'est que c'est peut-être plus visible quand on voit des signes de ce qu'on appelle communément folie, donc schizophrénie ou paranoïa ou quelque chose. Déjà, des gens qui s'échappent, on voit qu'ils sont moins en contrôle. Ce que je comprends aussi, c'est que c'est surtout avec ces gens-là que vous êtes en contact, parce que vous les soignez. Mais quelqu'un qui se prend de rage, qui a toujours été paisible, puis qu'on n'a jamais compris, ces gens-là finissent souvent en prison et vous avez moins de contact avec.
Oui, effectivement. On a des contacts quand on les évalue, parce que souvent, on nous demande, quand il y a un crime de cette importance-là, de voir à quel point la maladie a affecté l'individu. Des fois, c'est à un point tel, c'est plus rare qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient ou ils ne savaient pas que c'était mal. Là, ils sont déclarés non responsables. Mais des fois, il est affecté par une dépression qui fait que son jugement était altéré, puis qu'il n'aurait pas fait ça s'il n'avait pas été malade, mais pas au point de dire qu'il est non responsable. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus au niveau de la sentence que le juge va donner. Il y a toujours un côté punitif puis un côté exemplaire à la sentence, mais en même temps, il peut avoir un côté aussi d'essayer que cette personne-là va retourner en société à un moment donné, à moins que ce soit un meurtre grave, de voir comment elle peut retourner en étant un bon citoyen, puis en évitant que ça recommence. Fait que c'est utile, les expertises, pas simplement pour dire si les gens sont non responsables ou pas, mais dans plusieurs cas pour adapter la sentence.
Parce que ce que je comprends de la loi canadienne là-dessus, c'est que le cas de non-responsabilité dans un procès criminel, c'est si l'accusé n'avait pas vraiment conscience de l'horreur de ses gestes.
En fait, c'est l'article 16, il y a deux critères, c'est un ou l'autre. Soit que l'individu est malade à un point, il ne comprend plus ce qu'il fait. Il sait même pas qu'il est en train de faire ça. Ça, c'est plus rare. C'est plutôt l'autre où l'individu ne sait plus que c'est mal de faire ça. Fait que, par exemple, un schizophrène qui est convaincu qu'il doit faire ça pour sauver la Terre, puis qu'il y a des voix qui l'incitent en plus à faire ça, puis que c'est un changement drastique par rapport à la personne qu'elle était avant, mais là, c'est plus facile de comprendre que cette personne-là, elle aurait pas fait ça. On parle de crimes familiaux, une mère qui est convaincue qu'il faut qu'elle meure et qu'il faut qu'elle amène ses enfants avec elle parce que ils vont vivre une vie de souffrance, puis ouais. Elle-même veut mourir pour éviter cette vie-là, fait que ça devient presque altruiste. C'est un suicide élargi. Là, on peut comprendre que son point de vue sur la réalité était complètement faussé. Fait que c'est ça qu'on essaie d'évaluer. Des fois, c'est difficile. C'est plus difficile si les substances toxiques se rajoutent pendant l'événement. Quelle est la part de l'intoxication versus la part de la maladie.
Mais il n'y a pas toujours un juge qui décide. On s'entend que quelqu'un qui commet quelque chose de tellement grave comme tuer sa famille, c'est quelqu'un quelque part de malade, même si la maladie n'est pas la schizophrénie, mais la rage pure. Quand t'es rendu là où t'as de la rage, où t'es plus capable de raisonner, il me semble qu'on parle de maladie aussi.
Oui, mais c'est là que c'est compliqué.
Pas dans le code canadien, mais j'essaie de trouver dans la réalité, là.
Ben, sauf que en psychiatrie, c'est un peu dichotomique, ça devrait pas l'être. On fait une espèce de distinction entre ce qu'une maladie que quelqu'un va développer, qui est à l'encontre de ce qu'il est, puis il aurait absolument pas fait ça s'il n'avait pas souffert de ça. Là, on peut comprendre que cette personne-là, déjà, est pas chanceuse que cette maladie-là arrive, ça lui cause tous ces problèmes-là, puis en plus, ça commet un acte criminel. Versus quelque chose qui est inhérent à la personnalité d'un individu. C'est clair que des individus qui n'ont pas eu la chance d'avoir un développement idéal, ils ont vécu des choses difficiles, ils ont vécu de la violence, donc ils vont agir plus facilement de la violence. C'est sûr que on parle pas de maladie ici. On parle plutôt de personnalité. Sa personnalité est comme ça. Est-ce que la personnalité la fait souffrir? Est-ce qu'elle est pathologique? Sûrement. Mais on peut pas dire à ce moment-là que cette personne-là, on peut pas la déresponsabiliser, même si c'est pas de sa faute, si elle est prise avec ces démons-là, avec lesquels elle doit se battre de ne pas agir cette violence-là. Mais on peut pas la déresponsabiliser non plus si c'est pas quelque chose d'extérieur à elle.
Oui, je comprends. Docteur Chamberlain, on va prendre un premier appel. On a François au bout du fil. Salut, François.
Bonjour. Merci de prendre mon appel. Je pense qu'il y a des signes avant-coureurs, comme si vous pouvez vérifier, admettons, les courriels qui sont sévères envers la femme. Ça peut être des traces. S'il y a eu des prises de bec, des voisins ont vu pour peut-être prévenir les autorités. S'il y a eu des cas de violence conjugale, admettons que la police a été appelée 2-3 fois à la maison pour faire la paix, puis que le gars il a reçu un order de restriction,
oui.
Et puis tout ça. Puis si, admettons, l'homme si c'est une garde partagée, admettons que l'homme garde les enfants, mettons une journée de plus, juste pour faire suer la femme, là, tout ça. Donc, il y a des signes comme ça, mais c'est...
On comprend que ces signes-là, la police les a vus, là.
Oui.
Les rapports sur ces choses-là, s'il y a des voisins
exact.
Qui ont vu, s'il y a eu des emails menaçants, des courriels menaçants, s'il y a eu... C'est toutes des choses qui sont identifiables.
Mais oui,
il y a des fois où il n'y a rien.
Des fois, il y en a peut-être qui font des menaces, tout ça, mais qui ne passent pas à l'acte. Donc, c'est très difficile de juger est-ce que ce gars-là va passer à l'acte, même si... Parce qu'il y a des cas de prise de bec, de violence, mais que ça passe pas, il arrive pas au meurtre total, là, comme ça.
Vous avez raison, François. Vous avez absolument raison, François. Docteur Chamberlain,
oui.
C'est un fait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus menaçants, mais qui ne feront jamais quelque chose comme ça. C'est juste que la menace fait partie de leur façon de s'exprimer quand ils sont désespérés. Et ça, c'est une chose. Et d'autres gens qui ne connaissent aucune menace, aucun signe, et c'est eux autres les vrais dangers.
Exactement. Et là, c'est là que vient toute la difficulté. Il y a des organismes qui ont les coudées plus franches. La curatelle, par exemple. Pas la curatelle, la DPJ.
Oui.
La DPJ, c'est sûr que s'ils ont des doutes, ils peuvent retirer l'enfant. Ils prendront pas de chance. Et la loi leur permet ça, là. S'ils ont des doutes, c'est la sécurité de l'enfant qui va passer en premier.
Il y a plus d'espace dans la loi sur la DPJ?
Clairement. Par contre, à l'autre extrême, il y a les policiers. Si c'est pas judiciarisable, s'ils peuvent pas amener ça devant un procureur pour que le procureur dépose des plaintes, ils peuvent pas faire grand-chose. Entre les deux, il y a peut-être les médecins.
Puis des fois, c'est complexe pour les policiers. Moi, j'ai un ami policier, il dit, j'ai été appelé violence conjugale, j'arrive, je vois l'homme frappe la femme, j'arrête l'homme, la femme me saute dessus pour me tuer. Hey, il dit, j'ai envie d'arrêter tout le monde. À un moment donné, des fois, c'est pas clair pour un policier.
Oui. Puis même s'il arrête tout le monde, on peut pas faire de la détention préventive au Canada. Et des fois, on essaie de médicaliser le problème quand, justement, il y a pas de maladie. Mais encore là, les médecins, on pense que les médecins ont un pouvoir absolu. C'est très, très limité. Ça prend un danger grave et immédiat pour qu'un médecin à l'urgence puisse garder quelqu'un contre son gré, même s'il veut le faire évaluer par un psychiatre. De dire à un citoyen, mais t'attends que le psychiatre arrive, je te garde contre ton gré. Mais il faut que le médecin puisse justifier un danger grave et immédiat. Et même un psychiatre qui va devant un juge, il faut qu'il puisse justifier un danger pour demander le temps d'évaluer cette personne-là, puis le droit de l'évaluer. Fait que s'il n'y a pas de danger,
que ce soit un danger pour les autres ou pour lui-même aussi. Ça, j'ai vu
exactement.
Ça. On voit ça dans la rue, souvent des jeunes de rue qui sont tellement désespérés qu'on est certain qu'on va les retrouver pendus quelque part, puis on essaie, on n'y arrive pas, on fait venir la police, mais encore là, cette loi est limitée. Ils peuvent le garder 24 heures, le jeune. Le lendemain, ils vont lui donner les pilules, puis ils vont le laisser sortir.
Dès que le danger n'est plus présent, on est obligé de laisser repartir les gens.
On veut dire présent et immédiat, là.
Grave et immédiat, ça, c'est pour aller chercher la personne et de la net se faire évaluer. Fait que je suis tout à fait d'accord avec la personne qui vient de parler. On en a souvent des indices. Et souvent, les gens même vont dire, c'est écrit dans le ciel, on s'en va vers ça. Mais de là, est-ce que les lois nous permettent de garder quelqu'un contre son gré, de le détenir en attendant que les choses se calment? C'est pas si simple.
Oui, puis il y a des lois dans la charte canadienne et même québécoise qui disent qu'on n'a pas le droit de condamner à quelqu'un une détention plus grave que le crime qu'il a commis. Alors, on peut pas faire ça avec n'importe qui, là.
Non, effectivement. Puis c'est la même chose pour les idées suicidaires. Pour 100 personnes qui ont des idées suicidaires, qui ont fait des menaces, il y en a une qui se suicide. Comment aller détecter
celle-là? Il n'a probablement pas fait de menace, celle-là.
Ben, effectivement. Fait comment détecter la bonne? On peut pas non plus garder ces 100 personnes-là vitam aeternam, juste tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a plus de danger.
Ouais, c'est
donc,
c'est
complexe. Des fois, malheureusement, on en a des indices, mais c'est pas parce qu'on a des indices que nécessairement on peut faire quelque chose non plus.
Oui, je comprends. On a Sylvain aussi. Bonjour, Sylvain.
Bonjour à vous deux. Bon matin. Écoutez, il y a beaucoup d'informations qui se donnent présentement. Je vous écoute. Puis, dans le cas qui nous occupe, je crois présentement que, exemple, un père qui tue un père ou une mère, OK, à vrai dire. Un parent tue ses enfants, exemple. Je peux pas croire qu'il pense avant. Je peux pas croire que. Je sais pas, je peux mélanger ça avec la maladie mentale. On dirait que je me dis que c'est un move de contrôle absolu sur l'autre personne, en fait. C'est comme, tu veux plus que je vois mes enfants, je vais les tuer. Je trouve que oui.
Ah ouais, l'idée de je souffre tellement que c'est moi qui va contrôler, puis là, c'est du monde qui souffre, ça sera pas moi, ça sera les autres.
Moi, je trouve que ça, oui, ça peut mener à une maladie mentale. Comme exemple, les pervers narcissiques aussi, ils aiment bien pareil. C'est pour ça que des fois, je suis mélangé. Est-ce qu'il y a des signes est-ce qu'il y a des signes qui fait que, tu sais, les pervers narcissiques aiment beaucoup bien paraître, aiment beaucoup paraître qu'ils sont gentils, qu'ils sont beaux, mais qu'en arrière de la cravate, c'est quelque chose d'autre. Puis, tu sais, ce que le monsieur a dit tout à l'heure, tu sais, j'en ai entendu des histoires de père ou de mère qui fait des menaces à l'autre, mais qui vient jamais exécution justement pour contrôler l'autre personne.
Oui, mais bien pareil, c'est pas des gros indices. Monsieur Chamberlain puis moi, en ce moment, on est conscient qu'on est public, on essaie de pas avoir d'air des cons. Mais je veux dire, c'est pas nécessairement un signe de pervers narcissique. Peut-être que M. Chamberlain l'est, pas moi, là.
Non, mais je parlais pas de vous. Non, écoutez, non, mais je parlais des personnes qui cachent bien leur jeu.
Oui, ça
se peut qu'il y a certaines personnes qui vont bien cacher leur jeu, puis d'autres, non, qui vont avoir des signes précurseurs avant. Je peux pas croire que les deux femmes de la vie de M. Martin, le père, s'est pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait depuis
ben,
quand.
Ça a l'air que non. Ça a l'air que
ben,
non.
C'est ça, parce que ça fait 5 ans qu'il est séparé avec la maman. Tu sais, il a la garde de la petite. Il a réussi à avoir la garde de la petite. La petite qui porte son nom de famille, même si c'est pas le père. Je peux pas croire que après 5 ans de séparation, il s'est fait un autre blonde, tout se passe bien, puis qu'il n'y a pas eu de signe de menace, qu'il n'y a pas eu de signe de... Dans le cas qui nous occupe, je sais pas, mais oui, je pense
c'est
que...
Mais ce que je vais retenir, c'est la notion de contrôle. Elle est très importante ici, Dr Chamberlain. Je viens de vous taquiner, ça m'a échappé. Là. c'est parce qu'il y a la notion de contrôle. Est-ce que je me trompe ou je sais, par exemple, la femme qui tue ses enfants, souvent, c'est dans l'esprit de peut-être pas tout le temps, vous allez me donner vos statistiques à vous, vous connaissez ça beaucoup plus que moi, pour éviter à ses enfants la souffrance, alors que l'homme, c'est plutôt une tentative de contrôle. Si moi, je souffre trop, j'en peux plus, là, ça suffit, c'est les autres qui vont prendre les shots. Moi, je prends les enfants.
J'ai pas de statistiques, c'est quand même des événements qui sont rares, mais ce que vous décrivez, c'est ça qui se passe. Souvent, c'est la mère qui a la garde des enfants, souvent même monoparentale, donc elle a cette charge-là, elle s'épuise, et ce qu'on va entendre quand on les évalue, c'est « moi, je me suiciderai pas, j'ai mes enfants ». Tant que j'ai mes enfants, je me suiciderai pas, puis c'est ça qui me tient en vie. C'est à double tranchant, cette affaire-là, parce que quand c'est juste ça qui nous tient en vie, ça nous passe par l'idée que ben on peut leur éviter la même vie de souffrance qu'à nous, puis ça c'est un service qu'on leur rend de pas avoir une vie de souffrance, là, ça peut basculer l'autre bord, puis c'est là que le suicide élargi peut arriver. Donc, quand les gens disent « c'est mes enfants qui me tiennent », bon,
mais là,
tant mieux, il y a
vous
ça.
Vous parlez mais... d'une notion de droit qui semble différente. Vous parlez de suicide élargi au lieu de meurtre.
Ben c'est la notion qu'on utilise pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'une mère, par exemple, va tuer ses enfants. Cette mère-là est suicidaire, va vouloir se suicider, mais ce qu'elle dit, c'est déjà mes enfants, on a de la misère. En plus, ils vont se retrouver pas de mère, ils vont aller où, ils vont faire quoi. C'est déjà une vie de misère, si je me suicide, c'est encore pire. Et c'est là que cette idée-là des amener avec eux. Puis il y a aussi un petit, quand on évalue les gens, un petit contexte, quelque chose d'un peu religieux, là. Je vois pas partir tout seul, je vais les amener avec moi, il y a un peu ça qui joue aussi. Mais là, c'est clair que c'est pas quelqu'un qui est privé de ses enfants, c'est pas quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui, au contraire, qui a la charge de ses enfants puis qui arrive plus. Tandis que le conjoint, lui, c'est pour ça qu'on dit que ça arrive souvent après un geste d'éclat. La personne est rejetée, elle essaye de compenser, elle n'est pas capable, fait des tentatives pour revenir, ça fonctionne pas souvent parce qu'il y en a eu avant qui n'ont pas fonctionné non plus. Là. Souvent, les femmes ont raison que ça marche pas, puis de fermer la porte définitivement. Et là, c'est là que la colère vient. Ces gens-là vont se sentir victimes, vont perdre de vue tout ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans cette situation-là. La colère monte, veulent se suicider parce que c'est trop souffrant, vont consommer des substances, et là, la colère va éclabousser partout. Ça peut éclabousser sur les enfants, sur la conjointe elle-même.
C'est une chose que j'ai remarqué, les gens qui ont subi je donne un exemple, là, c'est un pur exemple, des violences quand ils sont jeunes ou des agressions quand ils sont jeunes, souvent, la colère qui va sortir plus tard, va, excusez mon mot français, splasher, éclabousser, évidemment pas ceux qui leur ont fait mal, mais ceux qui vont être le plus proches d'eux autres. Et ça, c'est souvent leurs enfants.
Malheureusement, oui. Les gens qu'on investit le plus, les gens qu'on aime le plus, c'est les gens qui peuvent nous faire le plus mal aussi. Fait que c'est souvent contre ces personnes-là qu'on peut avoir le plus de colère à un moment précis.
Bon, pour l'instant, on essaie de se remettre de tout ça. Je trouve bien fort de travailler là-dedans tous les jours, Dr Chamberlain. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Et puis, on va se rappeler, on continue à parler de ça, parce que là, on est au début, on ne comprend rien pour l'instant. Merci beaucoup, Dr Chamberlain.
Ça fait plaisir. Au revoir.
C'est le Dr Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Et puis, au retour de la pause, on va parler avec Geneviève Landry, qui est directrice générale de l'Entraide pour Hommes.